Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une tisane et au lit. Quel bonheur de nous retrouver autour de cette table sur la péniche Altea pour échanger autour d'un sujet qui nous trotte dans la tête depuis longtemps et surtout, à mon avis, qui trotte dans la tête de beaucoup de Français, c'est la reconversion professionnelle. Pour tout vous dire, cela fait un moment que ce sujet est prévu car elle devait être traitée lors de la diffusion du film Artiste de la vie lors d'une session du cinéma d'Altea. Covid oblige, les séances ont été reportées, puis annulées. En revanche, cette période nous a tous et toutes chamboulés et poussés à nous interroger sur nos vies. Alors pour certains et certaines, ça a été aussi l'occasion de changer de vie, alors des fois de manière forcée ou volontaire. Donc c'était pour nous le bon moment d'échanger sur ce sujet-là avec mes invités autour de la table. Avec moi, Sandra Marinelli, qui est créatrice de contenu. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Myriam Mendy, que je ne présente plus sur Esperluette, puisque vous l'avez notamment entendu dans les rendez-vous en terre intérieure sur le podcast, et qui est aussi aujourd'hui facilitatrice de changement. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Et avec moi, à chaque fois, Séverine Durmaz, la capitaine de la péniche Altea et créatrice de bien-être. Bonjour Séverine.
Bonjour Marie-Cécile.
Et un petit coucou à Pascal Mossino qui devait être là également, mais qui malheureusement est malade aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un tour de table et d'autant plus aujourd'hui parce que je pense que c'est important que vous vous présentiez toutes et surtout que vous expliquiez un petit peu ce que vous avez fait avant. Et comme ça, ça va nous permettre après d'enchaîner sur ce sujet de reconversion professionnelle. Sandra,
je commence.
Alors, si mes informations sont bonnes, tu as été commerciale, assistante de direction, responsable de food truck. Aujourd'hui, tu crées des vidéos et du contenu, notamment sur YouTube. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, tu as très bien résumé, en tout cas. J'étais à Paris avant et j'ai fait tous ces métiers-là quand j'étais en région parisienne. Et il y a 4 ans, j'ai décidé on a décidé avec mon mari de changer de région, de déménager. Ça a été une très, très, très grosse étape dans notre vie. On a été très stressés et en même temps super heureux. Mais grâce à ce premier déclencheur, je dirais, de tout quitter pour changer de région et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire dans notre vie, ça a été révélateur en fait pour la suite. Donc effectivement, maintenant je fais des vidéos sur YouTube, mais ça fait déjà quelques années avant même mon déménagement du coup. Et maintenant, je prends toutes les opportunités qui viennent.
Et tu fais notamment des vidéos ASMR. Mm-hmm. Est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes ?
Ce sont des vidéos pour détendre les gens par des sons qu'on va produire avec des objets de la vie de tous les jours ou avec des chuchotements, par exemple. C'est bien d'écouter ces vidéos-là avec un casque ou des écouteurs parce que ça permet d'être dans une bulle, en fait, et de mieux écouter, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est des vidéos qu'on peut écouter le soir pour s'endormir ou j'en ai qui les écoutent pendant leur pause du midi, par exemple, pour se détendre un peu. Et c'est un moment pour soi et c'est à découvrir, je pense.
Moi, en tout cas, je ne connaissais pas. J'ai découvert grâce à toi, puisque j'ai découvert tes cartes positives sur la péniche. On en a parlé dans l'épisode sur la créativité. Et puis, j'ai été un peu curieuse, et donc j'ai été voir. J'avoue que j'étais un peu perplexe. Ouais. Je me suis dit, quelqu'un qui va me chuchoter à l'oreille, je ne vois pas comment ça va me détendre. Et moi, je trouve ça super efficace. Alors, j'écoute pas ça tout le temps, mais il y a des moments, ça fait du bien. C'est ce que tu disais, je trouve que ça t'oblige à te mettre dans ta bulle parce que t'es obligé de te concentrer aussi sur ces bruits et tout ça. Et donc, ça permet de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça permettait vraiment de se déconnecter. Donc, c'était une découverte. On reviendra un peu comment t'es arrivée à ça et
ça
tout
marche.
Ça. Mais en tout cas, voilà, merci. Myriam, alors, toi, t'étais plutôt une professionnelle du marketing et de la communication. Tu as travaillé plutôt pour des grosses entreprises. Et voilà, si tu peux un peu expliquer d'où tu viens et puis...
Et où je vais.
Et puis aussi, on t'a rencontré d'abord sur Esperluette par ton interview quand tu étais manager de ville de la ville de Monteux pour la traversée des arts. Donc voilà, parce que cette évolution?
Oui, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai commencé infographiste, en fait, donc dans la communication. Et puis, j'ai travaillé effectivement dans le milieu bancaire, dans le milieu autoroutier, où j'étais vraiment dans le service client, le marketing, la communication. Et puis, petit à petit, la vie m'a amené à... Est-ce que c'est bifurqué? Est-ce que c'est continuer à avancer sur son chemin? Je ne saurais dire. J'ai fait du développement de l'attractivité pour un territoire qui n'est pas très loin d'ici, qui est les Sorgues du Comtat, où j'étais manager de ville. Et aujourd'hui, je suis professeure de yoga et facilitatrice du changement. Donc là encore, une évolution sur mon parcours.
Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que ça veut dire facilitatrice du changement?
Il fallait trouver un terme, hein, mais j'ai toujours été habituée aux termes un peu bizarroïdes dans mes métiers. Donc déjà manager de ville était déjà pas mal. Donc facilitatrice du changement, en fait, c'est accompagner les gens dans ces phases de transition un petit peu d'entre deux, où le mental se pose beaucoup de questions, où on a nos blocages et où il faut dépasser un petit peu... C'est frein. Et du coup, mon idée, c'est d'accompagner en fait les individus ou le collectif, parce que j'aime intervenir en entreprise aussi, en essayant de dépasser ces schémas mentaux. Et ça passe par la compréhension. Le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Et j'ai beaucoup accompagné le changement donc en entreprise pendant toutes mes années. J'ai fait beaucoup de conduite du changement, d'animation de réseau et de gestion de projet. Et on passait souvent par la mise en place d'un outil extérieur ou de nouvelles méthodes. Et au fur et à mesure de mon expérience, même si l'outil était bien mis en place, même si a priori les indicateurs de l'entreprise étaient bons et indiquaient que tout allait bien, que le changement était en place, ça ne voulait pas dire qu'à l'intérieur, les gens avaient vraiment changé.
Des fois, ça coince.
Et l'humain est peu pris en considération, enfin, pas considération, mais il est pas vraiment pris dans sa juste mesure au niveau de l'entreprise, parce que on distingue vraiment le personnel du professionnel et on estime que tout ce qui est, on va dire, intériorité ou développement personnel, c'est lié à la sphère privée. Et moi, c'est vraiment là où j'interviens et j'aimerais vraiment que les entreprises le prennent un petit peu plus en compte. Donc, je vais soit intervenir sur des ateliers ponctuels, des conférences pour un petit peu faire bouger les choses. Puis sinon, je fais du suivi individuel où j'accompagne les gens, soit sur une transition professionnelle, personnelle, sur une problématique ou par un jeu d'échange d'images. Je fonctionne beaucoup par images. Je vais aider les gens à mieux comprendre la manière dont fonctionne leur cerveau, les mécanismes de leur mental, et à dépasser en fait leur blocage.
Tu as la bonne place pour cette émission.
J'essaie de me le faire à moi-même déjà pour essayer de dépasser déjà mes blocages. Donc effectivement, oui.
C'est déjà, je pense que c'est une bonne première étape de commencer par soi.
Voilà, c'est ça. Il faut expérimenter d'abord.
Séverine, tu as déjà un peu raconté ton histoire, mais pareil, si tu peux reposer pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
Oui. Alors moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le tourisme à Paris. Et puis, je pense que je suis assez représentative d'une frange des personnes qui se reconvertissent. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé un truc, je tombais malade. Il y a souvent un accident, en fait, qui va donner un signal et qui va dire au corps, le corps va dire au mental, maintenant, il faut faire attention à soi, il faut s'écouter un peu plus, il faut faire attention, etc. Et en fait, à partir de là, ça a été vraiment le point de départ. Après, je pense que c'était quelque chose que je préparais depuis longtemps avant. Ça faisait 8 ans, en gros, que j'étais en train de me dire que j'aimerais bien mettre en harmonie mes convictions personnelles et mon activité professionnelle. Donc ça a pris du temps, en fait, pour arriver vraiment à ce que je décide vraiment d'aller voir une coach. Et donc je suis tombée malade, je suis allée voir une coach qui reçoit aujourd'hui sur la péniche, donc je suis super contente de ça, c'est chouette. Elle m'a aidée à garder l'endurance, elle m'a aidée à trouver du temps aussi, à faire des choix, à me donner les moyens, en fait. Et je pense que Maria, elle m'a beaucoup dit, mais si tu veux changer de vie, donne-toi les moyens, donc vraiment. Et ne te laisse pas aspirer par ton milieu, par l'entreprise, etc. Ce qui était vraiment le cas à l'époque, je me laissais aspirer. Donc voilà. Du coup, ça a été assez radical. Après, à partir du moment où j'ai pris la décision, j'ai monté le projet, j'ai vu la coach, et puis j'ai acheté la péniche, et puis la péniche est née.
Voilà. Et voilà. Et on est dessus. On est ravis. Quelle bonne idée.
C'est ça.
Donc, bonne transition. Je voulais vous demander aussi, pour vous, ça a été quoi le déclencheur? Donc, toi, c'était une maladie. Sandra, de ton côté, qu'est-ce qui a fait... Donc, t'as embarqué. Alors, je ne sais pas qui a pris la décision en premier ou qui a dit à l'autre par rapport à ton mari... On en a marre, on s'en va.
Mon mari avait envie déjà depuis quelques années de partir de Paris parce que lui était dans la restauration. Il l'a toujours été pendant très très longtemps. Et il voulait une autre vie. On voulait aussi commencer à fonder une famille. Et à ce moment-là, en tout cas, on ne se voyait pas le faire à Paris. Ça faisait quelques mois qu'il me tannait quand même pour partir, quelques années peut-être même. Et en fait, moi, mon déclencheur, ça a été la collègue, le binôme de trop. La personne avec qui tu travailles toute la journée, qui est en face de toi, qui est ultra négative, qui te pompe ton énergie. J'ai travaillé avec elle pendant quelques années. Et en fait, j'ai eu cette phase de, tu sais, quand tu es en vacances et que tu ne veux pas retourner au travail, et ben, en fait, je me suis dit, non, mais ce n'est pas logique. Voilà, que je n'ai pas envie de retourner au travail. Et c'est ce jour-là, c'était en Crète, où on était en vacances. D'ailleurs, je me suis gardé ma bague que j'ai toujours à la main pour un petit peu symboliser ce moment où je me suis dit, j'ai pas envie de toujours avoir ce besoin de m'évader pour souffler et pour ensuite subir mon travail pendant plusieurs mois en attendant à nouveau les vacances.
Les prochaines vacances.
C'est ça. Et en fait, ça a été une dure étape parce que c'était quand même un travail que j'aimais beaucoup et j'étais assistante pour une grosse équipe avec qui je m'entendais très bien. Mais il y avait cette personne qu'aujourd'hui je remercie de tout cœur parce que grâce à ces mois et ces années de stress qu'elle m'a donné, bah, ça a été le déclencheur pour dire stop et pour partir et pour créer autre chose ailleurs.
Et là, ton mari a dit « chouette ».
Exactement. Il a dit « j'attendais que ça ». Ça a été une grosse étape, mais oui, je pense effectivement qu'il y a toujours un truc qui fait qu'on se dit « ok, ou j'accepte, ou alors faut trouver les moyens de faire autrement, quoi, pour être heureux et surtout d'un point de vue professionnel, parce que j'avais fait pas mal de métiers. Ça m'apportait toujours, mais il y avait aussi les points négatifs où je ne me sentais pas comblée, je ne me sentais pas accomplie. Et en tout cas, oui, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, non, je ne sais pas ce que je veux faire.
Oui, parce que ce n'était pas juste changer de Paris, au final. C'était ouais. De se dire, OK, on bouge de Paris, on part de Paris, mais il y a aussi, j'ai envie de changer professionnellement.
Oui, parce que même si ce métier me plaisait... moi, j'aimais bien les contacts avec les gens, quoi. Mon équipe était sympa, donc voilà. Mais ça me remplissait pas, quoi. Donc, je me suis dit que c'était le moment, en tout cas, de bouger et de vraiment me poser avec moi-même pour savoir ce que je voulais vraiment faire. Après, ça, c'est l'histoire d'une vie. Je pense qu'on est tous, on évolue tous tout le temps.
Étape.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Et de ton côté, Myriam ?
Ben, c'est vrai qu'il y a toujours un déclencheur. Je remarque qu'en fait, dans les histoires, il y a souvent aussi un déclencheur et puis une phase de maturation. Tu parlais de 8 ans, toi, en disant « après, ça s'est passé d'un coup ». C'est pas vrai, ça a pris 8 ans. Je pense que moi, c'est pareil. Ça faisait quand même quelques années que je me posais des questions. J'avais un job de cadre sup dans une grosse boîte, 3 enfants. La vie roulait et à la fois, il y avait quelque chose qui me faisait dire que j'étais à la fois dans une zone de confort, c'est-à-dire quelque chose de connu, mais qui n'était pas confortable à l'intérieur. Il y avait un mal-être et à la fois, c'est confortable. C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas bien, mais on est dans le connu. Et on a la sensation que si on sort de cette zone de confort, ça ne marche pas. Et donc, tout ce cadre que je m'étais fixé, qui était l'idée que je me faisais d'une carrière, l'idée que je me faisais aussi de gagner sa vie, avoir une famille, d'assumer un crédit, c'est toujours dans les âges où on se met toujours aussi à des petits enjeux. Au fond de moi, il y avait quand même quelques signaux qui me faisaient dire que j'avais envie de quelque chose de plus apaisé, de plus en conscience, sans vraiment avoir d'idée. Et puis, un peu tout comme toi, la maladie m'a rattrapée d'une manière un peu violente, suffisamment pour que je repense mon modèle en peu de temps. Et de surtout avoir modifié totalement mon cadre. C'est-à-dire qu'en fait, mon premier changement a été de me dire, mais en fait, ce cadre que mon mental m'a fixé, mais il est factice, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a que les limites que je me mets moi. Et le fait de me dire, est-ce que tu veux vivre avec des regrets ? Et si demain tout s'arrêtait, ce qui était un peu le...
C'était un peu le message.
Qu'il y avait, le message qu'il y avait un peu à cette époque-là, on va dire. Eh ben, est-ce que vraiment tu aurais fait tout ce que tu voulais et pourquoi t'attends, en fait? Et donc, de là, en fait, mes verrous ont complètement sauté. C'était dans un rendez-vous de médecin, je me souviens très bien du moment, et ça s'est fait en 3 secondes. Donc, très bizarre, très violent, et à la fois, je pensais ce qu'il me fallait. Et donc, je suis repartie de là. Je n'ai pas, bien sûr, commencé à changer de vie tout de suite. Enfin, ma vie avait changé, hein, puisque j'étais en chimiothérapie, donc ça a un peu changé quelques mois. Mais après, c'est vrai que la décision que j'ai prise, c'est de me dire, OK, à partir de maintenant, tu fais ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi et arrête de te poser des questions sur le financier, sur est-ce que ça se fait, est-ce que je suis légitime, est-ce que... Et donc, du coup, j'ai profité de ce temps d'arrêt, cette parenthèse, en me posant des questions et en me disant qu'est-ce que tu as envie de faire. J'avais envie de changer de boîte, de métier, de revenir à quelque chose de plus concret, de revenir dans une PME un petit peu. Et donc, du coup, avant de reprendre le boulot, j'ai commencé à chercher du boulot à côté. Et puis, il se trouve que le jour où je devais reprendre mon travail dans mon ancienne boîte, mes nouveaux employeurs m'ont appelé en me disant « on vous veut ». Donc, un mois après, j'avais changé. Donc, je suis partie d'un CDI pour un CDD, un contrat de mission, moins payé, mais juste à côté, qui me bottait. Donc, c'était vraiment déjà complètement dehors de mon cadre. Donc, ça a été un peu la première étape. Et puis, je crois qu'en fait, cette leçon que j'avais apprise d'une manière un peu radicale, mais qui était en fait au fond de moi depuis un petit moment... Je me la rappelle souvent en me disant « arrête de t'endormir, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment ?» Et donc j'ai fait ces 7 ans, j'ai travaillé 7 ans donc, pour cette mission d'attractivité du territoire, ça m'a beaucoup plu, j'ai vu du monde.
Durée déterminée, mais voilà. Long.
C'est la fonction publique, donc c'est le jeu, mais moi ça m'allait très bien, hein. C'est un contrat de service qui m'allait très bien, j'avais pas envie de me fixer en fait. Alors là pour le coup, autant avant je cherchais à me fixer, être dans ma zone de confort, et là en fait c'était même très agréable d'être en dehors de ma zone de confort, c'est très bizarre parce que c'était pas ce que j'étais avant. Et puis, petit à petit, entre-temps, je faisais du yoga. Le yoga prenait une place dans ma vie. C'est devenu une évidence de le transmettre, mais de transmettre aussi au-delà. Tout ce que j'avais eu envie, en fait, qu'on me transmette dans ces phases de changement. Puisqu'en fait, paradoxalement, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout confortable dans le changement. C'est quelque chose qui me heurtait énormément avant. Et donc, je crois que c'était mon chemin.
Au moins, maintenant, tu peux conseiller en ayant conscience.
Voilà. Et du coup, il y a 1 an et demi, je me suis dit que c'était le moment. Je ne voyais pas pourquoi j'allais attendre et je me suis mis à mon compte pour apporter ce que j'avais envie d'apporter. Et puis demain, on verra.
C'est ça.
Et alors, dans ce que tu disais, Myriam, il y a un truc. Moi, je me souviens qu'une des premières paroles de coaching, quand j'ai commencé, elle m'a dit, donc il y avait toute une liste de questions, et elle m'a dit, le jour de votre mort, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous?
Ah oui, moi, ça, je l'ai eu aussi.
Ouais, et je me suis mise à pleurer tout de suite. Et je me suis dit, donc je suis responsable des ventes, je n'aimerais pas qu'on dise ça, en fait. Parce que ça ne me représente pas, quoi. Enfin, voilà, je ne suis pas, c'est pas ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, c'est pas moi, quoi.
J'étais responsable administration des ventes, véhicules légers, télépéage.
C'est bien aussi.
C'était moins fun. Enfin, je n'ai pas été tout le temps ça, mais celui-là, ce titre-là, effectivement, sur ma tombe, ça me disait moins bien.
Prendre la place sur un CV, c'est joli.
Mais du coup, c'est une vraie prise de conscience. Enfin, voilà, moi, j'ai mis du temps, ça m'a vachement. Elle m'a posé des questions qui m'ont remué et ça m'a secoué, hein, clairement.
Après, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup interrogée parce que est-ce qu'on peut réellement se reconvertir? Alors, reconvertir professionnellement, c'est déjà un terme. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une reconversion ou est-ce que c'est un chemin qu'on continue? Parce qu'en fait, finalement, moi, si je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, depuis même adolescente, avant même de bosser, m'amène à ce que je suis aujourd'hui et peut-être à ce que je serai demain. Tout a un sens et tout ce que j'ai fait serait à refaire. Si j'avais à refaire mon chemin, je le refais de la même manière. Donc, il y a un côté où, effectivement, le terme reconversion professionnelle m'interroge et je me dis, c'est peut-être juste un chemin, et on prend juste peut-être un chemin de traverse par rapport à des gens qui vont peut-être pas remettre en cause le chemin tout tracé. Après, il faut toujours un déclencheur. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre aux gens qu'il ne faut pas avoir un déclencheur?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut être malade pour...
Et bien évidemment...
une collègue.
Voilà. Et je ne le souhaite pas, bien évidemment, d'aller dans cet extrême-là, mais le fait d'être confronté à la maladie te confronte forcément au fait de dire, demain, si tout s'arrête, est-ce que je peux avoir des regrets ou pas? Donc, c'est assez rapide. C'est une manière d'y aller. Bon, on peut éviter. Hein. Si vous pouvez éviter, je vous le souhaite quand même.
Des fois, il en faut plusieurs. Hein, ça...
Alors souvent, en fait, le corps en plus donne des signaux d'alerte hein, qu'on n'entend pas, parce que qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Donc,
au moment où on tombe bien, bien malade, il y a déjà eu 10 alertes avant. En fait.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je ne le souhaite pas aux gens et que je vous souhaite d'écouter un petit peu avant. Mais ça peut être effectivement d'autres prises de conscience. Souvent, ça peut être une un licenciement, un divorce, peu importe. Il y a des mais
un confinement.
Un confinement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que le changement arrive, il faut qu'il y ait une mise en mouvement. Et pour qu'il y ait une mise en mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous sortiez, en fait. Parce que sinon, on y reste, même si on n'est pas forcément super heureux, mais on n'est pas forcément malheureux non plus. Donc, je comprends que les questions que la coach t'ait posées ben, sont là un peu pour confronter et mettre en mouvement. Mais cette mise en mouvement, et en fait, c'est ça qu'il faut trouver. Et qu'est-ce qui nous met en mouvement ? Donc, ça dépend. Ça peut être aussi un conjoint qui, à un moment, dit « je veux bouger ». Et donc, ben, par amour, on le suit.
Non, puis tu as le côté rationnel. Enfin, le côté, moi, je me disais, donc là, je vais dépenser 1 500 euros, admettons, pour un coaching, pour gagner deux fois moins après, et je vais quitter un boulot en CDI, en télétravail, hyper bien payé. Et là, on te regarde, on te dit, mais ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu quittes un boulot comme ça? T'es au courant, il y a du chômage en France. Et tu dis, bah oui, mais je vais quand même le quitter, en fait.
Oui,
voilà,
oui.
Je vais quand même y aller.
T'as eu ça aussi, Sandra, quand t'es partie? Alors moi, je sais, quand je suis partie de Paris, j'étais responsable de relations presse dans une agence, et quand j'ai dit que j'allais habiter dans un petit village du sud de la France, on m'a tous regardé, genre... T'es sûre ? Ça va aller ?
J'ai eu ça, mais je trouve que j'ai quand même eu des personnes en face de moi qui avaient envie de le faire malgré tout, en fait. Et qui étaient rattrapées justement par leur mental ou par cette société qui leur disait... Bah maintenant, je ne sais pas s'ils y sont encore, mais...
Oui, c'est ça, parce que moi, celles qui m'ont dit « Ah oui, j'aimerais faire comme toi », elles y sont toujours. Donc...
Mais à l'époque, en tout cas, j'ai pas senti de l'envie dans leur regard, mais ça se sentait qu'ils ne me prenaient pas tant pour une folle que ça, en fait, qu'ils comprenaient que j'avais ce besoin-là, de toute façon, de partir. Et puis, c'est pareil, nous, on partait de Paris, on a laissé CDI et CDD, mais pour quelque chose, on n'avait rien de prévu, en fait, dans le sud. On avait juste réussi à trouver une location, du coup, pour se loger, quand même, c'est important. Mais on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait faire, mais on se sentait bien avec ça. Et je pense que les gens ont compris, en fait. Mais tout le monde attend son petit déclencheur pour le faire.
Oui, puis d'ailleurs, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'insouciance ou de l'inconscience?
Oula.
Bah alors mon père, mon père aurait dit, oui, c'est ça, de l'insouciance peut-être.
Non, parce que souvent les gens qui regardent ça disent, waouh, faut oser, et ils regardent ça avec envie. Et à la fois quand on est dedans, c'est assez bizarre, mais c'est pas forcément, moi, je ne me sens pas forcément plus courageuse que la moyenne. Hein. Je suis une peureuse comme tout le monde. Je ne me sens pas forcément insouciante. Je pense que j'ai les pieds sur terre. Mais à la fois, peut-être qu'il y a une envie, une curiosité. Et que l'envie, en fait, de donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on est, est plus forte, en fait, que le risque que les gens peuvent voir, en fait, derrière.
Oui, et puis il y a cette histoire du risque où, voilà, à chaque fois quand tu quittes un CDI notamment, on est « oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas jamais t'en sortir, surtout en ce moment ?»
Oui, alors là, c'est une idée, c'est vraiment dans le cadre qui est donné par la société. Donc tu parlais effectivement, donc le CDI, c'est le Saint Graal. Hein. Et puis quand on a un projet, on va surtout le regarder sous le prisme de l'argent. Combien je gagne aujourd'hui ? Combien je vais gagner demain ? Et quand... Alors que dans un salaire, ce que je gagne, ça peut être aussi de la qualité de vie, ça peut être du temps de transport, ça peut être de la sérénité, du stress en moins.
Ah bah ça, pour le changement entre Paris et...
Oui, tout à fait.
Mais c'est surtout que tu disais par rapport au Saint Graal du CDI, mais c'est aussi que moi, on m'a toujours dit toute ma vie que travailler, c'était pas un plaisir, en fait.
Oui, il y a une...
Tu vois, genre, oui, mais mon CDI, il me plaît pas. Oui, mais c'est pas grave, t'as un CDI, c'est le plus important, en fait. Et mais qui aime aller travailler ? Personne n'aime aller travailler. Genre, tu te réveilles le matin, tout le monde est de mauvaise humeur, mais c'est comme ça, la vie. C'est comme ça.
Oui, la vie, c'est pas un conte de fées.
T'es pas censé t'épanouir dans ton travail. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'entend, quoi.
Oui.
Et c'est au moment où tu ouvres les yeux et que tu dis, mais est-ce que... c'est possible que je puisse travailler toute la journée dans un domaine qui me plaît, en fait. Il y a la notion japonaise là, de Ikigai, qui est top, de dire voilà, ce dont ce dans quoi je suis bon, ce qui me plaît, ce pourquoi je pourrais être payée et ce dont le monde a besoin. Et c'est ça. Et je pense que quand on ouvre les yeux là-dessus, on se dit non, mais en fait, j'ai le droit d'être heureux dans mon travail, et j'ai le droit de me lever le matin, d'être heureux, et j'ai le droit de ne plus avoir besoin de vacances pour souffler. On a tous envie de partir en voyage quand ça sera possible, mais on est sur une péniche, c'est déjà pas mal.
Voilà.
Moi, c'est mon petit voyage des 6 derniers mois. Là. On démarre wow. après, ou pas
non, on y va, on y va.
Mais ferme les yeux, tu peux avoir
la chance. On va jusqu'au fond d'Avignon, tu verras. Ça va être chouette.
Mais ouais, en tout cas, c'est aussi ce côté-là où moi, ça m'a un peu... ça m'a donné une claque de me dire non, je ne dois pas subir mon travail. Quoi.
Sachant qu'en plus, quand vraiment on fait ce pour quoi on est fait, alors c'est un peu bizarre la manière dont je le dis, mais je crois qu'on a tous, au fond de nous, un potentiel à développer, quelque chose pour lequel on est doué. Et quand vraiment on s'aligne là-dessus et qu'on le fait, mais qu'est-ce qu'on est rentable pour une entreprise, voilà. Ou pour soi-même. Je veux dire, il y a rien de mieux quand on dit mais non, on est là pour travailler, mais c'est hyper rentable. Pour
après, c'est vrai que moi, on m'a souvent dit oui, mais si tout le monde faisait ce qui lui plaisait, il y aurait plein de boulot, il y aurait plus de gens, ou en tout cas, il y a plein de métiers qui seraient plus occupés. Et donc, on peut pas tous faire ce qu'on veut. Enfin, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on nous inculque tout le temps dans la société, à l'école notamment.
Oui, et puis il y a des personnes qui ont des corps de métier qui nous ça ne nous intéresse pas du tout, mais que peut-être eux sont très satisfaits là-dedans aussi. Enfin, après, c'est vrai que c'est propre à chacun.
Ça va aussi dans ce que tu disais sur l'organisation de la journée. Tu peux aussi te dire, je commence très tôt le matin, je fais quelque chose qui n'est pas forcément hyper fun, mais derrière, j'ai toute ma journée. Ça me permet de faire autre chose, de la peinture ou je ne sais pas quoi.
On peut se réaliser aussi en dehors du... Enfin, on n'est pas forcément obligé d'être... là, on est dans la reconversion professionnelle, mais on peut très bien aussi avoir un job alimentaire et puis avoir à côté, se réaliser vraiment sur un projet à côté sans forcément être payé pour ça.
Et ce boulot alimentaire peut permettre justement de créer quelque chose. Et puis, on n'est pas obligé de travailler dans le bien-être non plus, parce que là, quand même, autour de la table...
Oui.
En préparant l'émission, je me suis dit quand même, alors là, on est... Ils sont toutes passées d'un bureau à un boulot de bien-être. Donc, ce n'est pas obligatoire.
Mais c'est vrai que l'histoire des talents, c'est vraiment ça. Moi, c'est un truc, j'ai compris, oui, quel était mon talent. Je l'ai cherché, en fait. Et du coup, depuis que je suis autour de ça, je sais que je suis à la bonne place. Et se rendre compte, effectivement, qu'on est à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, c'est trop génial.
Oui, et puis ça coule plus facilement. Enfin, moi, je trouve qu'après, ça n'empêche pas d'avoir des galères, c'est pas non plus, c'est effectivement pas le monde des bisounours, hein. Mais je trouve que même les galères, elles passent pas de la même manière. Si tu croises quelqu'un qui est désagréable, tu te dis, de toute façon, c'est pas grave. Alors que si t'es toute la journée à côté de quelqu'un de désagréable, c'est pas pareil. Enfin, je trouve qu'il y a, tu t'arrives à relativiser beaucoup de choses une fois que tu sais que t'es au bon endroit, en fait. Et après, ça coule plus facilement. Même si, c'est...
Mais après, il y a le côté aussi, je pense, des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, de la culpabilité aussi de ne pas y arriver. Et c'est pour ça, quand tu disais que ça n'empêche qu'on peut quand même avoir un travail alimentaire, mais essayer de s'accomplir autrement à côté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes... j'ai des retours, par exemple, de mères célibataires avec 4 enfants qui vont dire, mais... moi, je ne peux pas tout plaquer pour essayer de trouver... parce que je sais au fond de moi que je veux faire autre chose, mais je ne peux pas. Financièrement, ce n'est pas possible. Et je pense que, bien entendu, tout n'est pas... toutes les décisions ne sont pas à prendre comme ça, du tac au tac. Et on peut réfléchir à tout ça et ça peut s'organiser petit à petit, quitte à se dégager un peu de temps pour faire autre chose, une passion, quelque chose qui nous apporte... Et la vie fera que peut-être ça sera de plus en plus, on ne sait pas.
Oui, et puis ça n'empêche pas, effectivement, quand on prend des décisions, de prendre en compte toutes les problématiques financières, familiales.
Ça ne devrait pas être un frein, en tout cas, pour s'écouter.
Voilà, au moins prendre le temps de s'écouter, de réfléchir et de se dire, je me rends compte que là, ce que je fais aujourd'hui, ça ne me va pas, mais peut-être qu'il y a moyen de faire évoluer pour que ça aille un peu mieux et que je me lève le matin en me disant, ça va, quoi, j'ai envie d'y aller. Parce que ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se lever le matin.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, ah, quelle horreur. J'y retourne.
Tu as raison, effectivement, de, quand on peut bah, écouter des interviews comme on fait là et se dire, ouais, elles en sont là, ok, tu as ta péniche, ton activité, t'es sortie de Paris, c'est super. Ça peut, enfin, on retient que ce qu'on veut retenir, tu disais quand même, ça t'a pris 8 ans. Moi, ça m'a pris à peu près pareil aussi, le fait de que ça mature. C'est assez inconscient, ça monte, t'as des périodes plus ou moins, t'as des déclencheurs, t'as des gens sur ton chemin aussi qui jouent des fois, tu les croises pas longtemps, mais ils vont te dire une phrase, ils vont t'interroger, ils vont te poser une question. Le seul fil conducteur, je pense, qu'il faut retenir, c'est souvent... Quand on a une idée, quand il y a vraiment un allant qui nous arrive et d'un coup dans ces périodes un peu où on réfléchit, souvent on se dit « oui mais » ou alors ça va être le « pourquoi ?» Mais pourquoi et comment et en fait l'idée c'est peut-être plutôt dire « pourquoi pas ?» C'est-à-dire pourquoi on est toujours en train de se demander dans nos vies, d'autant plus aujourd'hui, moi c'est ce que je dis à mes enfants, vous allez être amenés à faire plusieurs métiers. Il ne va pas y avoir qu'un seul métier, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Donc, commencez pas à vous imaginer un plan à 20 ans, comment vous êtes. Faites les choses et surtout, posez-vous toujours la question de pourquoi pas. Vous avez envie de ça. Tout de suite, ne voyez pas les freins. Essayez déjà de voir ce qui peut être possible. Et puis après, éventuellement, on revient effectivement à des choses plus terre-à-terre où on regarde. Mais tout n'est pas figé. Si on regarde, on parlait d'études de marché, de business plan, des choses comme ça. C'est nécessaire. C'est bien d'en faire aussi à un moment donné. Et puis, à un moment donné, il faut se dire... Eh ben, on verra, on va inventer en marchant. Et puis, y a des choses qui se font. Alors, c'est pas toujours une science exacte, hein. Il ne faut pas non plus se lancer à l'aveuglette. Mais tout n'est pas non plus inscrit. On ne peut pas avoir la garantie que ça marche. C'est se mettre en mouvement. Et en fait, peut-être qu'on a visé la Lune, mais qu'on va atterrir dans les étoiles, comme dirait... je crois que c'est Monsieur Lee.
Mais, ça n'a pas été présenté. Mais bon. Non, puis même un CDI, on n'est jamais sûr. Même quand on a un CDI, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. On voit bien avec, avec le Covid, avec la situation. Il n'y a aucun métier, aucun boulot qui fait que tu sais exactement ce qui va se passer dans ta vie pendant les 20 prochaines années.
C'est tout à fait triste en plus.
Bah, c'est ça. Si tu sais ce que tu vas faire pendant 20 ans.
Et où est-ce qu'on sera dans 20 ans ?
Oula.
Là aussi. Après tout.
Alors là, on peut faire une deuxième émission. La marge. Et à partir du moment où vous avez changé, vous êtes lancé, qu'est-ce qui a fait que... Je suppose qu'il y a eu des doutes, il y a sûrement eu des galères, parce que là, on se dit que tout va bien, donc on va parler un truc facile. Et aussi la question de la légitimité, parce que quand on se lance dans un nouveau métier, qu'on est en train de changer complètement, quand on change de poste, bon, voilà, faut arriver dans la boîte et se dire « j'ai déjà fait ça, on a des bases ». Mais quand on change complètement de métier, à partir de quand on se sent légitime et ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous empêche souvent d'avancer ? Qu'est-ce que ça a été pour vous, le moment où vous vous êtes dit « bah oui, j'y vais » et en tout cas, c'est peut-être pas parfait, mais je me lance, quoi. Je me sens légitime, en tout cas, j'y vais.
Qui commence.
Je dirais, ouais, et puis j'ai pas de...
Parce que toi, en plus, Sandra, tu te montres dans une vidéo, donc on te reconnaît, quoi.
J'ai pas question... En tout cas, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu pendant très, très longtemps, parce que malgré tout, dans mon secteur d'activité... Si on prend les vidéos ASMR, parce que du coup, je fais d'autres choses aussi à côté, au fur et à mesure de la vie. Mais pour les vidéos ASMR, il y a d'autres créateurs de contenu de ce type de vidéos-là. Donc, tu as quand même cette tendance à un moment de te comparer. Tu te compares, tu regardes le nombre de vues, d'abonnés, etc. Bon, je ne l'ai pas fait longtemps, justement parce que je me suis dit que j'avais ma façon de faire, mes messages à passer, que j'étais quelqu'un d'unique comme l'autre créateur en face de moi. Par contre, la légitimité, moi, je l'ai cherchée dans le fait de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaisait énormément. Ça a été très dur pour moi d'assimiler ça, en fait. Le fait de se dire, bah, toute la journée, je ne l'ai pas vu passer. J'ai fait quelque chose que j'adore faire et je suis payée pour ça. Et en fait, encore avec ce côté de labeur, de travail, de il faut, tu vois... Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Hein, mais ça a été très dur pour moi de me sentir légitime et de me dire oui, j'ai le droit d'être payée en faisant quelque chose que j'adore faire en fait. Et comme quand j'ai créé mes cartes positives, le fait de les vendre, mais presque au début j'avais envie de les offrir à tout le monde, tu vois, je me suis dit non, je peux pas, tu sais, j'ai pas envie de les, enfin, toujours ce côté un peu bizarre aussi avec l'argent, hein, c'est et mais en tout cas du moment où je me suis dit non, je suis légitime et j'ai le droit de passer ma journée à faire quelque chose que j'aime et de gagner de l'argent, là, tu as 25 000 projets qui arrivent dans ta tête et puis tu te dis...
Il y en a même trop, souvent.
Et c'est ça.
Trop d'idées. Ouais. Mais donc, ça veut dire qu'effectivement, tu as réussi rapidement à gagner de l'argent avec cette activité-là?
Non, ça a pris des années. En tout cas, YouTube, ça va faire 6 ans bientôt que j'ai ma chaîne.
T'as combien? 180 000 abonnés?
Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui ne veut rien dire par rapport à combien tu gagnes. C'est très, très aléatoire, YouTube. Et voilà.
C'est de la rémunération avec la publicité, c'est ça?
Exactement. C'est la pub qui est en début de vidéo. Et d'un mois à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc, il y a aussi ce côté que tu n'as pas quand tu as un CDI. Hein, voilà.
Et puis, pas de chômage après.
Exactement. Bah oui. Mais bon, je suis bien avec ça. Mais effectivement, non, ça a mis plusieurs années. Donc là, ça fait vraiment 2 ans que j'ai... Enfin, je peux même pas te dire que j'ai un salaire correct parce que
Ça
dépend des mois aussi. Donc je mets de côté. Et puis quand c'est moins, je mets... Voilà.
Oui, puis on a tous chacun notre manière de considérer un salaire correct. C'est-à-dire que...
Voilà. Bon, par contre, le fait de cette reconversion professionnelle, moi, ça m'a amené aussi à une vie plus simple, tout simplement. Donc, le salaire que j'avais avant en CDI dans ma boîte de finances où j'étais assistante de direction, je gagnais beaucoup mieux ma vie et je n'avais pas peur de chaque fin du mois. Mais aujourd'hui, non, ça n'a rien à voir. Mais je suis bien en tout cas avec ça.
Ça s'entend.
Bah, tant mieux.
Oui, c'est ça. C'est aussi d'assumer. Ce n'est pas le tout de prendre la décision de changer et de se dire « ah ben, on verra bien ».
Ça va avec un mode de vie, c'est en ça. Fait. C'est sûr que si je... Si je continuais à faire autant de shopping que j'en faisais à Paris, YouTube, ça serait pas assez.
Bon, déjà, la vie à Paris coûte plus cher, ça, c'est
exactement,
certain.
Exactement, ouais, c'est clair.
Ça, c'est sûr. Déjà, sur le loyer, c'est ça. Mais après, il faut adapter. De toute façon, quand on prend en compte une reconversion professionnelle, il faut prendre en compte tout ce qui fait partie de la vie et effectivement être prêt ou pas. Et ça, dans ces cas-là, il faut l'assumer, à gagner plus ou moins d'argent. Parce que je pense que là, autour de la table, vous avez toutes perdu en salaire.
Ça dépend ce qu'on met dans le salaire.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, je dis. En argent.
En chiffres, en tout cas.
Oui, je gagne moins que ce que je gagnais avant, mais je gagne plus.
Autrement.
Oui, ouais. Largement plus.
Et toi, pareil, la légitimité. Alors toi, t'es au début.
Alors moi, je suis au début. Je me soigne. Hein, oui, c'est vrai que le problème de la légitimité se pose. En fait, quand je doute, je me mets dans l'action. C'est-à-dire que j'essaye d'appliquer un peu ce que je préconise. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas me laisser embarquer par mon mental et justement, quand il me rattrape et qu'il commence à se poser plein de questions, j'y vais et je dis OK, tu fais quand même et puis on verra bien. Et puis, je suis toujours étonnée, en fait. Moi, je suis une éternelle enfant et je suis toujours émerveillée de me dire « Waouh, mais en fait, il y a des gens qui sont venus au stage. Waouh, mais il y a des gens qui s'inscrivent à mes cours de yoga. Waouh, mais il y a des gens qui veulent que j'y suive et que je les accompagne. »
Des gens qui m'appellent.
Voilà, c'est vrai. Hein, c'est agréable. C'est comme ça, en fait, je pense que petit à petit, la légitimité se construit. Et puis, surtout aussi, je m'entoure. Je m'entoure de personnes quand justement je doute ou que j'ai cette problématique, ou je m'ouvre en fait à ces personnes-là, des personnes qui peuvent m'inspirer, qui ont un parcours aussi, qui sont lancées dans leur activité, et donc j'essaie d'exprimer en fait ce que je ressens, et je me rends compte qu'en fait ils ont en discutant qu'ils ont les mêmes doutes, la même problématique de légitimité, et du coup ça me rassure et je me dis mais en fait arrête. On est tous pareils, et parce que je trouve ces gens-là légitimes dans ce qu'ils font, je me dis pourquoi toi, tu ne serais pas légitime dans ce que tu fais? Et c'est quoi la légitimité, finalement? Alors, je suis quand même allée chercher des diplômes, hein, parce que ça, c'est mon côté cerveau gauche, hein, j'ai besoin quand même un peu de se rassurer. Donc, pour le yoga, notamment, j'ai fait une certification internationale, parce que ça me paraissait bien, j'ai choisi une formation qui était bien exigeante.
Alors que tu étais encore en poste.
Alors que j'étais encore en poste, j'ai fait ça à côté, j'ai fait ça, mais à la fois... bizarrement, juste avant de recevoir mon diplôme, ça y est, je m'étais libérée. C'était le chemin nécessaire, justement, pour me dire, et si tu ne l'avais pas? Et si, qu'est-ce que ça représente, finalement? Et au bout de ces 2 ans de formation, presque, au moment où on m'a dit, OK, tu l'as et tu vas le recevoir par courrier, eh ben, j'en avais plus besoin. Mais, c'est comme ça, c'est l'histoire,
c'était mon chemin.
Mais effectivement, ça m'a quand même titillée. Donc, ça reste quelque chose qui est sous-jacent, cette problématique de légitimité. Et je crois que c'est toujours quand on... C'est la société dans laquelle on vit. Hein. On est en France, hein. On a besoin de diplômes, on est dans des cases quand même. C'est pas négatif, mais on est culturellement dans une société qui a besoin de voir un CV.
Ouais, qui note plus les erreurs que le...
Voilà, et où l'expérience est importante, le CV. Et après tout, est-ce que t'es légitime si t'as de l'expérience ou si t'as des clients? Pas forcément. Faut juste avoir confiance.
Et c'est vrai que quand on fait son premier devis ou qu'on reçoit son premier paiement, je trouve que c'est le moment où tu te dis quand même « peut-être qu'en fait, j'ai fait le bon choix. » En tout cas, il y a des gens qui me font confiance. Donc,
oui,
que je suis dans le bon...
Ça vient petit à petit, en fait. C'est certain qu'au bout de quelques paiements, on se dit « ça a l'air d'être quand même bon. Hein. Le premier, ce n'était pas une erreur. Le deuxième, ce n'était pas pour, ma bonne bouille. Finalement, ça a l'air d'être vraiment sérieux. C'est vrai que ça vient au fur et à mesure. Donc, ça remet en confiance. Mais je crois que c'est important vraiment de bien s'entourer autour aussi de gens qui sont dans cette dynamique-là, qui essayent aussi de comparer parce que ça remet un petit peu dans ces réflexions et ça permet de sortir un petit peu de ces tergiversations et de ces doutes.
Et toi, Séverine, qui a un peu plus d'années maintenant avec la péniche que tu as achetée il y a 4 ans, c'est ça?
Ça va faire 4 ans.
Ouais. Ça a évolué. Tu as fait évoluer les activités sur la péniche. Pareil, est-ce qu'à chaque fois, c'est un nouveau doute et tu te dis, je tente.
Je crois que ça m'interpelle cette histoire de légitimité parce que donc moi j'ai ouvert la péniche en statut associatif et je me suis entourée de thérapeutes. Voilà. Et du coup, la légitimité, moi je l'ai trouvée en étant derrière les thérapeutes.
C'est pas
en
moi,
disant,
c'est...
Mais moi j'organise en fait. Hein. J'ai les locaux et je fais de la déco et j'organise. Donc j'ai mis du temps en fait avant de me remettre au centre et moi du coup ça a été plutôt au premier confinement là de mars dernier où je me suis dit l'activité elle est au point mort, c'est super dur parce que je suis trop liée à cette péniche et du coup j'arrive pas à me détacher de ce lieu. Et j'ai refait un petit coup de coaching avec une autre personne. Et parce que de temps en temps, c'est bien. Enfin, moi, c'est important pour moi, ça m'aide beaucoup d'avoir un regard extérieur qui va me redonner des nouvelles clés, des choses que je vois pas. Voilà. Et je me suis remise un peu au centre et je me suis détachée de la péniche. Et là, ça m'a permis de mettre en place plein d'autres idées qui étaient déjà dans les cartons, etc. Et de les mettre en place, de les faire naître petit à petit. Et là, cette année, c'est l'éclosion de toutes parts, donc c'est top.
C'est ça. Mais, pourtant, sur le papier, c'est pas le meilleur moment pour éclore sur un lieu qui accueille du public.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça éclot. Il y a plein de choix de projets qui arrivent à maturité là et qui sont prêts en fait. Voilà. Puis là, je suis sur la quatrième année, donc pour moi la légitimité ça a été oui d'être reconnue au niveau local et après mon lieu il est tellement atypique que je pouvais me comparer à personne en fait, c'était tellement cette question je me la suis pas trop posée parce que je m'étais mis un paravent de toute façon pour être protégée. Moi je sers des jus donc voilà
ça va. Et quel jus?
Donc ça m'a mis l'histoire de l'argent par exemple, vraiment au début au tout début à l'ouverture j'avais des jus et j'avais du mal à demander aux gens 5 € pour le jus quoi. Alors que c'est des produits bio, machin. Enfin, j'ai même pas à me justifier, mais peu importe le prix. Mais donc le bar, il a toujours d'ailleurs des prix assez bas, et j'ai toujours du mal à faire payer les gens au bar. Quoi. Ouais, c'est un truc.
Ça reste toujours.
Ça commence à venir.
Même,
ouais, là, 4 ans ouais. Après, ça reste toujours. Okay. Il y a toujours des trucs.
Après, toi, t'es en face à face, donc c'est vrai qu'il y a ce contact direct de demander le prix.
Oui, mais en même temps, c'est légitime. Ouais, c'est-à-dire je sais très bien le prix que j'ai mis, c'est le prix qui est juste. Et en plus, le bar, il est vraiment pas cher pour le coup. Donc, ça va, c'est pas du vol, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite remarque négative en face. Pas tout le temps, mais il y en a toujours une qui va dire « Oui, c'est un peu cher quand même ici, ta 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 ». Et donc là, tu passes un quart d'heure à expliquer que tes fruits et tes légumes, ils sont bio et que donc forcément, il faut bien que tu les fasses payer, quoi. Sinon, tu perds de l'argent, quoi. Et bon, voilà, mais c'est pas grave, ça, j'avance là-dessus.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant l'émission, on discutait un peu sur le fait que quand t'as une critique,
elle
s'ancre beaucoup plus longtemps que tous les gens qui vont dire « Ah là là, c'est super, c'est génial, on est bien là ».
Après, elles font progresser toutes ces critiques aussi, moi, ça m'a permis de bien avancer, mais...
Ouais. Bah, puis aussi d'affirmer, potentiellement, soit tu te disais « Effectivement, je baisse mon prix et peut-être que je change la recette ou j'utilise peut-être pas des produits bio, soit j'affirme ça et j'affirme mon prix ». Et c'est peut-être à ce moment-là où on se sent légitime, quand on est capable de dire « Ben, moi, c'est comme ça, et c'est comme ça. Point. Et si ça ne va pas, ben, c'est que ce n'est pas le bon client. »
C'est nous-mêmes à nous convaincre en premier, sur cette histoire de prix. Si on est honnête, c'est quand on n'est pas au clair avec les prix qu'on fixe, à la première interrogation, parce que quelquefois, ce n'est pas une critique. Les gens questionnent juste. Et d'un coup, on se justifie comme
c'est
ça.
C'est nous qui...
on se justifie. Donc là, c'est qu'on n'est pas au clair avec nous-mêmes. Donc c'est d'abord soi à se convaincre et à être très sereine, en tout cas, et convaincue, en fait, que oui, ça se paye. Comme toute chose, et que ça a ce prix-là. Et comme il n'y a souvent pas de comparaison, en tout cas dans les métiers que l'on a choisis, il n'y a pas forcément toujours de comparaison, c'est toujours un peu compliqué de se dire « mais ça vaut combien, du coup ?» Voilà.
Tu t'es renseignée, toi ça ? Est-ce que tu as été voir d'autres youtubeuses ou en tout cas, est-ce que tu as été questionnée d'autres personnes qui faisaient le même métier pour voir un peu combien elles allaient gagner, comment elles faisaient, comment elles se rémunéraient ?
Alors, on est en France, hein, encore une fois, donc c'est tabou, tout
d'argent.
Ça. Il
ne
faut jamais parler de ça. Après, il y a certaines créatrices d'ASMR avec qui je suis en contact régulièrement. Donc, oui, on en a parlé, mais c'est tellement aléatoire, encore une fois, YouTube... Mais juste, je voulais rebondir par rapport à la légitimité et par rapport à tes jus, Séverine, parce que tu te souviens, il y a quelques mois, je voulais organiser une rencontre ici avec des abonnés. Et d'ailleurs, c'était une première étape pour moi de nouveaux projets, donc de rassembler une toute petite communauté, enfin des petits groupes quoi, de 10 personnes, qu'on puisse être sur la péniche, prendre un petit jus et partager sur plein de sujets.
Sortir de l'écran peut-être pour rencontrer...
Exactement, ouais. Et surtout que ça soit un échange pas qu'avec moi, hein, que ça soit vraiment dans tout le groupe. Du coup, on n'a pas pu parce que c'était le deuxième confinement, il me semble. Néanmoins, j'avais quand même commencé à en parler. Et puis moi, j'ai eu ce problème de légitimité aussi de faire payer, dans le sens où je me suis dit, je vais organiser, je voulais faire quand même une bonne, ne serait-ce que toute l'après-midi, qui est la location de la péniche. Je voulais prépayer à Séverine des jus pour les gens, quitte à demander peut-être à peut-être à un thérapeute ou non. Enfin, je savais pas trop, mais je savais que ça allait engendrer des frais. Mm-hmm. Et j'avais tellement pas cette légitimité-là que je voulais faire sous forme de don, tu vois. Et de dire aux gens, ceux qui voudront venir... Et puis, j'étais obligée de pré-réserver pour pas qu'il y ait 25 000 personnes qui viennent. Donc, je me suis dit, les 10 personnes qui viendront, ça sera sous forme de dons. Et puis, chacun donnera ce qu'il peut. Et puis, on m'a dit, mais non, pourquoi juste tu fais pas payer, même si c'est 5 € ou 10 € l'après-midi, il va y avoir plein d'échanges, c'est légitime. Et en fait, je me suis dit, OK... Donc, du moment que j'ai été entourée, du coup, et qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça, je me suis dit, d'accord. OK, d'ailleurs, je ne sais même plus ce que je m'étais mis en tête, parce que je crois que j'avais dit ou pas, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je me souviens surtout des retours que j'ai eus de personnes qui étaient très, très désappointées que dans le milieu, justement, spirituel ou de bien-être, qu'on puisse faire payer les gens pour venir passer une après-midi. Et du coup, ça m'a remis ça en pleine figure. Oui, je me suis dit, j'aurais dû m'écouter. Non, mais j'aurais dû l'offrir à tout le monde. Mais finalement, tout ça, j'aurais payé moi-même de ma poche.
Toi, par contre, t'étais prête à payer pour l'organiser.
Oui, parce que je m'étais dit, je vais offrir ça aux gens, je vais offrir ce moment, etc. Sauf que non, encore une fois... c'est pas négatif de payer quelque chose, c'est normal, il y a des jus, il y a une location, il y a
Puis on a tous besoin de payer son loyer,
mais je pense que
les
personnes les personnes qui me suivent par exemple sont habituées aussi à avoir du contenu gratuit par exemple sur YouTube.
Mais ils ont l'impression que c'est le problème à mon avis de YouTube, c'est qu'ils ont l'impression que c'est gratuit parce que ils sortent pas de l'argent, mais comme ils ont de la publicité
mais en tout cas mais en tout cas c'est un contenu qui est gratuit.
Mais oui.
Et du coup, quand toi, en tant que youtubeuse, tu proposes une après-midi, tu dis, ça sera, 10 € par personne.
Oh là là.
Bon, Non.
Bah non, c'est gratuit.
Comment tu peux demander aux gens qui te suivent de payer, tu vois?
Même mais limite, peut-être, tu prends la grosse tête maintenant.
Exactement, oui. Et ça, c'est un très gros travail à faire, c'est vrai, hein, de se dire, mais je suis pas en train d'escroquer les gens, quoi. Mmh.
Donc ça veut dire que là, si tu le... Quand on pourra recommencer?
Ça sera 100 € par personne.
Je vais monter le prix de la salle.
Là, attends, j'ai fait un très gros travail avec moi-même, d'accord?
Je
me sens légitime.
Et l'année prochaine, c'est 300 €.
Voilà, et ça sera 15 minutes. Non, non, non. Par contre, je me sens effectivement beaucoup mieux avec cette idée-là, parce que finalement, ces critiques ou ces remarques m'ont permis, malgré tout, de me poser et d'avoir une réflexion aussi par rapport à ça, et de me dire, voilà, comment moi je vois les choses, sans penser aux critiques qui pourraient y avoir. Et maintenant, je suis bien avec ça.
Oui, puis de toute façon, que tu fasses payer 10 € ou 100, t'auras toujours des gens qui vont te dire « ça va pas, c'est trop cher, je comprends pas ». Enfin voilà, c'est... Oui. Et puis après, moi, je trouve que quand t'organises quelque chose, de faire payer, déjà, ça responsabilise aussi les gens de venir. Parce que moi, je sais que j'ai déjà été sur des organisations d'événements où, pareil, on s'était dit, bah, notamment un TEDx, on va dire « on va le faire gratuit parce que voilà, on avait eu les subventions, tout ça ». Super, sauf qu'au final, on avait réservé une salle où il y avait, je ne sais plus, 300 places. Les gens s'étaient inscrits, avaient leur place. Et il y a un tiers, je pense, le matin, qui n'est pas venu. Donc, on a refusé des gens.
Oui.
Et je pense que si juste on leur avait fait payer 5 €, on aurait eu des gens qui ne viendraient pas parce que t'es malade le matin. OK, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et juste le fait de dire « je fais payer », donc ça veut dire que déjà, ça valorise mon travail, parce qu'il y a quand même ça. Oui. Et en plus de ça, ça responsabilise la personne qui vient. Alors après, si c'est trop cher, ben c'est trop cher. Mais...
Puis c'est un travail. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans le milieu du bien-être, il y a une frontière qui est un petit peu fine. Il y a d'abord des gens qui interviennent dans le milieu du bien-être, on va dire, en dehors de leur travail. Donc déjà, ça, les frontières sont plus floues. Mais ça reste un travail. Et donc, à un moment donné, tu donnes de ton temps, de tes conseils. Tu organises, et donc rien que ça fait que voilà, ça vaut quelque chose.
tout à fait, je suis d'accord.
Des voilà. Bêtises, quand il y a un blanc, c'est parce que faut que vous passiez le micro avec Pascal.
Non,
là, non, ok. Non, j'ai eu l'impression que ça allait dire quelque chose.
Elle pense à monter le prix de ses jus, hein,
c'est ça. Ouais, c'est ça.
Elle est en train de revoir sa carte et se dire, finalement.
Non, l'histoire des jus, c'est un truc. Quand j'ai monté le projet de la péniche, je m'étais dit, ah là, je ne vais pas supporter de faire des jus et d'aller les servir aux gens. Et parce qu'il y a un côté. J'avais un poste à responsabilité et d'un coup tu te dis bah voilà, je vais aller servir des jus aux gens, puis ça va me gonfler, j'aime pas le contact direct, etc., etc. Et en fait aujourd'hui je crois que c'est ce que je préfère, j'adore ça. J'adore ça, mais ça me manque carrément là, les gens qui viennent et qui puis de partager, parce que c'est pas le fait, la péniche c'est petit, donc du coup c'est un vrai partage, c'est pas juste un jus, je vais pas dire que c'est une expérience, mais on n'est pas loin quand même.
Bah quand même.
Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir expliquer aux gens ce qu'ils boivent, pourquoi ils le boivent, pourquoi c'est les fruits de Manon, de saison, pourquoi j'ai choisi ces assemblages-là. Mmh. Et puis, il y a le côté... je pense que ça vous arrive évidemment à vous aussi, mais le fait que ça soit un lieu, il y a le côté inspirant. Moi, je trouve ça génial d'inspirer d'autres personnes. Et après, c'est pas grave si tout le monde ne fait pas une reconversion, mais au moins, c'est effectivement ces personnes que tu croises sur ton chemin. Et des fois, je me dis, en toute humilité, hein, mais je me dis que oui, voilà, je donne des petites graines à chaque personne et qu'ils vont en faire quelque chose pour plus tard, quoi.
Et que tu peux inspirer toi aussi.
Ouais, je trouve ça génial d'être passé dans le côté des gens un peu inspirants qui peuvent donner envie aux autres de changer. Je trouve ça génial.
Alors, tu as dit quelque chose qui est assez, assez vrai, c'est en tout cas ne pas se comparer. C'est-à-dire d'abord se comparer aux autres, parce que ce n'est pas forcément moteur de se comparer. Souvent, on regarde la bouteille est moitié vide entre ce que les autres arrivent à faire et pas soi. Mais surtout aussi par rapport à sa vie d'avant. Pour peu que ça soit pas la même vie, mais disons que ce côté de ne pas trop regarder ce qu'on faisait avant et comment c'était, parce qu'effectivement on est un peu femme orchestre, on est que des femmes là, donc on est un peu femme orchestre quand on est à son compte notamment. On peut se retrouver à faire des choses pas forcément très glamour ou voilà, à être vraiment au four et au moulin. Et si on commence à regarder ça en se disant mais est-ce que c'est ça mon métier, est-ce que ça se résume à ça, si on commence à faire une comparaison, ça va enlever cet allant et il faut vraiment sortir des cases, vraiment sortir du contexte et se lancer en restant bien aligné sur ce qui nous a poussé, cet allant qui pousse et qui donne du sens en fait. Donc toi c'était la péniche. Après, ok, servir des jus fait partie du lot. Et puis finalement, bah, ça devient même un plaisir.
Oui, et puis si ça t'avait pas plu, t'aurais pu faire évoluer et finalement te dire bah, je le fais plus ou j'embauche quelqu'un pour le faire.
Oui, à la base, j'avais prévu d'embaucher quelqu'un pour le faire, mais en fait, j'aime bien les faire.
Finalement. Et en plus, cette période-là où tu peux pas les faire te conforte dans cette
non, mais c'est vrai que aussi, quand tu prends la décision de changer et les personnes qui sont dans ton ancienne vie vont te dire, mais donc là, tu quittes ce boulot bien payé, ta, pour aller faire des jus et changer les toilettes sèches dans la chambre d'hôte. T'es là, ben oui.
Ah oui, ça.
Oui, oui.
Réduit à ça, oui, effectivement.
Mais il y a plein d'autres choses autour. Oui. Et sinon, c'est aussi ma société et c'est aussi moi qui l'ai fait grandir. Et voilà, il y a des tonnes d'autres choses autour.
Super transition pour ma prochaine question, merci.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Qui était... voilà. Qui était, bah, justement, c'est quoi le regard de vos proches, ou en tout cas de vos amis, de votre famille, quand vous avez annoncé je change de vie, je pars, je quitte mon CDI, et que vous avez annoncé votre nouveau projet? Ça a fait quoi?
Et bah,
ton mari, avant, il était... lui, ça allait.
Oui, c'est ça. Non, surtout qu'encore une fois, quand on est parti, on n'avait pas de projet. Donc, je pense que c'était encore plus compliqué d'expliquer ça. Mais bon, comme d'hab, hein, je pense qu'il y a eu de la peur de la famille et des amis, un peu de peur, et puis en même temps, beaucoup de confiance, en fait, pour nous. Enfin, je pense qu'il nous faisait vraiment confiance. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que, parce que ça a été la grosse étape, mais depuis, on a mis en place plein de différents projets qui se sont arrêtés, on a commencé d'autres, etc. Et à chaque fois qu'on dit un nouveau truc qui nous vient en tête, bon, j'ai envie de te dire, maintenant, ils sont habitués, tu vois, donc ils se disent... Ouais. Parfois, ça paraît un peu... Oui, c'est ça. Mais même pour nous, c'est ça. Je dis pas que ça devient un jeu, mais on continue à se challenger dans la joie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc non, enfin nous, on n'a pas ressenti trop de retour négatif par rapport à ça, quoi. Il y a toujours la peur, ça c'est sûr. Je pense que nos parents, voilà, ils ont eu peur, ils auront toujours peur, comme quand nous on devient parents, c'est pareil. Mais non, ça a été. On n'a pas eu besoin de se justifier pendant des mois et des mois de nos choix, quoi.
Mais en plus, ils se sont dit qu'ils allaient avoir une bonne destination de vacances, donc.
Exactement.
C'était toujours déjà ça.
C'est ça.
Et c'est vrai que partir en se disant, j'ai pas, enfin en tout cas annoncer de partir en se disant j'ai pas de projet, en tout cas je sais pas exactement où on va. Oublie-toi ça, il y a un moment.
Ouais, mais bon, ouais, il nous faisait confiance, donc.
Et puis vous étiez peut-être tellement sûr de vous aussi.
Oui,
que...
c'est ça. Ouais. Ah ouais. Oh bah ils avaient bien vu qu'il n'y avait pas moyen de... qu'on n'allait
pas
changer
négociable.
D'avis. Donc c'est ça.
Ce qui est intéressant, ce que tu as dit, c'est maintenant, je ne sais plus comment tu as dit ça, mais maintenant c'est un jeu et on a de nouveaux projets. Mm. Bon, bah, ça fait un peu partie de
dans
vous.
Ce challenge souvent.
Ouais. Mm. Et c'est vraiment étonnant, c'est-à-dire que quand on sort du cadre et de sa zone de confort, le plus difficile est la première fois.
Ah mais vraiment.
C'est toujours cette sauter à l'eau la première fois. Mm. Et une fois que c'est fait. En fait, on comprend qu'on a des ressources, on comprend qu'on a survécu.
Ça amène une
froid, mais finalement, elle n'était pas si froide.
Ça amène une confiance, vraiment.
Et
quoi.
C'est assez. Mm-hmm. Et en fait, après, ça devient un plaisir. Oui. Et en fait, moi qui, effectivement, ai eu beaucoup de mal à franchir cette zone de confort la première fois, et donc avec ce fameux coup de pied aux fesses, je me surprends aujourd'hui à me dire allez. On y va, et que ça ne m'effraie pas du tout comme avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes. Mais effectivement, et ça, c'est vraiment une leçon à apprendre, c'est de comprendre. C'est-à-dire le plus difficile est le premier pas.
Oui, et puis que c'est justement ça, c'est de se dire les doutes sont normaux, les galères, voilà, c'est logique. Par contre, que ça ne devienne pas des freins.
Ben, on trouve les ressources au fur et à mesure.
Ouais,
et puis si on commence à anticiper, on n'aura pas les réponses à tout. Et donc les problèmes se règlent au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mmh. Il n'y a pas...
Un jour après l'autre, c'est déjà
un
pas
jour
mal.
Après l'autre. Ouais, tout à fait.
Et toi, Séverine, de ton côté ?
Moi, j'ai été ultra soutenue. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, j'ai eu de la chance. Et j'ai de la chance parce que d'abord, j'ai un homme qui me soutient toujours et qui croit en moi, etc. Et j'ai une maman aussi qui croit en moi. et qui m'a aidée financièrement notamment. Donc voilà, et c'est du coup ces deux personnes-là, je pense que quand on change effectivement de vie, c'est hyper important d'avoir quand même des personnes proches qui croient en ce qu'on va faire, parce que sinon, si en plus il faut aller convaincre les personnes proches, c'est compliqué. Difficile, quoi. Et à partir de là, après les autres, c'est pas grave. Voilà, moi après, je pense que les autres, ils m'ont tous mis. J'étais déjà dans une case un peu la faux-folle de service. Bon, voilà, du coup, j'étais un peu. Bon, voilà, ça allait avec, quoi. Voilà,
c'est logique.
Mais par contre, sur le fond, vraiment, oui. Mon mari et ma mère, ça a été un truc, voilà, ils m'ont suivi depuis le début et ils ont cru en moi et ils m'ont aidé. Puis après, il y a eu tout l'entourage, tous mes amis, toutes les personnes qui ont cru. Mais il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est avant de signer pour l'achat de la péniche, j'avais fait venir mes cousins et des amis bricoleurs pour essayer d'estimer les travaux qu'il allait y avoir sur place. Parce que moi, en arrivant sur la péniche, j'avais vu juste la vue sur le Palais des Papes et je trouvais ça beau, quoi. Et le lieu, c'était magique, tout ça. Donc, on fait la visite, ça, je leur montre tous les endroits, je leur explique ce que je veux faire et tout. Et en sortant, je leur dis « Alors, vous en pensez quoi ?» Puis ils me disent « Ah non, surtout pas, fais pas un truc pareil, quoi. N'achète pas ça, quoi. » Et du coup, je suis rentrée...
Du chaud froid.
Et du coup, mon mari m'a dit « Ouais, bah, tu vas l'acheter, je sais, oui.
» Oui, ça, c'est le côté têtu.
Et en même temps, c'est assez fait. Au final, voilà, on les a fait, les travaux, et c'est vrai que...
Et disent quoi, maintenant, justement ?
Bah, je pense qu'ils sont fiers, quand même. Ils continuent à venir faire des travaux ici. Mais oui, ça fait 4 ans qu'on fait des travaux un peu tout le temps. Mais,
oui, c'est une péniche, hein.
Voilà, il y avait des travaux à faire, effectivement, ils étaient nombreux, mais en fait, ça n'a pas été un frein. Après, j'ai trouvé les bonnes personnes aussi, puis j'ai été aidée, c'est sûr. On a fait des chantiers participatifs ici. Enfin, c'est là qu'on voit que, du coup, quand on arrive à faire adhérer son entourage à un projet comme ça qui est atypique, c'est chouette de voir que tout le monde se mobilise, quoi. On en a fait au moins 3 ou 4 de chantiers participatifs. Et c'est chouette, j'en referai d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai
pas fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gratté de la peinture, dis donc.
C'est vrai. Il va falloir repeindre un peu.
Ouais, carrément.
Donc voilà, non, je pense que le fait d'être entouré quand même par des personnes proches, c'est un peu indispensable, quoi.
D'avoir des appuis. Je pense que après, si c'est effectivement le conjoint ou le compagnon ou la compagne, c'est idéal. Les parents aussi. Mais si c'est pas, si les appuis sont pas là, il faut trouver des appuis parce que bien évidemment, pouvoir un petit peu se réassurer ou pouvoir parler en confiance. Parce qu'en fait, dès l'instant où les gens sont en doute, on va déjà être à se justifier et à devoir rassurer l'autre. Alors même que soi-même, on veut juste peut-être pas être rassuré, mais au moins en neutralité par des questions qui nous arrivent. Moi, pareil, j'ai la chance que mon conjoint m'a soutenue complètement et a jamais trouvé ça bizarre, tous mes changements. Donc, c'est
pas toujours tout, mais.
Voilà, mais il est là. Et c'est essentiel, bien évidemment, moi, dans mon cheminement, parce que c'est reposant. Disons que j'ai pas une remise en cause de ce côté-là. J'ai déjà suffisamment de remise en cause en moi.
Et t'as pas besoin de te justifier non plus tout le temps, parce qu'en plus, son conjoint, l'a à la maison tous les jours.
Voilà, tout à fait. Donc, du coup, lui, ne remettant pas en cause mes 3 ados de garçons, ne me remettent pas en cause non plus. Il y a un peu un clan familial qui fait que, ok, si papa a l'air ok, nous aussi. Parce qu'ils auraient pu aussi trouver
papa
ça un peu
ne
bizarre.
Pas, tout va bien.
Le fait que maintenant, il y a des gens qui viennent à la maison faire du yoga. Notamment. Et puis, ça change un peu la vie familiale. Après, dans l'entourage proche, en fait, je me suis assez... je n'ai pas voulu chercher un aval. J'ai annoncé quand c'était mûr dans ma tête et qu'en fait, voilà. Donc, c'est quelque chose que je fais d'une manière assez solitaire, de décider les choses, enfin, solitaire ou dans ma cellule familiale très proche. Parce que ça fonctionne comme ça. Et après, en fait, j'annonce. Et quand j'annonce, je suis assez hermétique. Donc après, il y a eu toutes les réactions. Et effectivement, au fur et à mesure, je reconnais bien ce qui s'est passé aussi dans ta vie, mais au fur et à mesure que je... Alors, les premières fois où j'annonçais les projets, c'était un peu... Alors bon, quand j'avais la caution de la maladie, ça je l'ai pas mal utilisé parce qu'en fait, du coup, il disait « Ouais, on va pas trop lui dire quand même, ça a l'air un peu fou ses projets, mais bon, elle en a besoin pour le moral. » Donc, ça m'a beaucoup amusée parce qu'en fait, du coup, j'y allais franco en disant « Non, mais je pense que je vais me reconvertir. » Et donc là, je n'osais pas trop, mais je sentais bien dans leur regard que c'était un peu « Oui, bon, on va la laisser tranquille, mais elle va atterrir à un moment donné. »
Ça ira mieux.
Voilà, quand ça ira mieux. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, il y a une habitude qui se crée, hein. C'est de, ok, bon, bah, c'est Myriam, d'accord, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? Donc, je pense que j'ai habitué un petit peu les gens. Mais en tout cas, quand j'ai posé les choses, c'est mûrement réfléchi. Et donc, voilà, c'est assez hermétique parce que je sais que je ne peux pas faire adhérer tout le monde. Et que souvent, en fait, dans ces projets-là, bah, les autres projettent leur propre peur.
Mais oui.
Ce qui est normal, c'est logique. Mmh. Donc, leur questionnement ne va pas être un questionnement vraiment pour soi et son projet. C'est plutôt un questionnement avec eux-mêmes. Et de se dire, waouh, mais moi, dans ce cas-là, mais je serais mort de trouille ou cette péniche, mais jamais je l'achèterais.
Le
mais...
fameux miroir.
Le fameux miroir, tout à fait. Tout à fait.
Oui, et puis en plus, je trouve qu'une fois qu'on est capable d'affirmer face à ses proches ou aux gens qui sont sceptiques, ce qu'on a envie de faire et qu'on se pose en se disant bah ok, tu trouves que je suis complètement folle mais je l'achète quand même.
Oui.
Je trouve que c'est la première victoire en fait,
fait.
Qui permet d'amener à la légitimité, mais en tout cas de se dire bon allez, à un moment j'arrête d'écouter parce que de toute façon t'auras toujours des gens qui vont dire c'est génial et d'autres qui vont dire faut que t'arrêtes de t'as craqué quoi. Mm. Bon. Et que t'es capable de dire ok, moi je sens que c'est là qu'il faut que j'aille, j'y vais quoi. Et puis ok, peut-être que ça va pas marcher, mais je trouve que ça c'est la... Le moment où tu arrives à faire ça, je trouve que c'est la première victoire,
oui.
En fait.
Mm-hmm.
Où tu te dis, je suis peut-être vraiment dans le bon truc, quoi. C'est...
Et puis après, tu n'as plus besoin d'attendre la validation voilà, des
ouais,
autres. C'est que
ça.
Tu sais clairement, puis tu le ressens, quoi, que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là, en tout cas.
Mm. Moi, je sais que mes parents, au bout d'un moment, pareil, maintenant, je les ai éduqués, entre guillemets.
Oui, voilà, après, il y a
maman,
une habitude.
Si tu m'écoutes.
Voilà.
C'est ça. C'est vraiment ça. C'est maintenant quand je lui dis un truc, elle dit oh bah.
Oui, c'est voilà. Ça. Bah pareil. Ouais, c'est...
Allez, vas-y.
Oui, parce que bah, là aussi, le cadre que toi, tu sors du cadre de ton propre qui est fixé par ton mental, mais du coup, en fait, ben bah, tu fais bouger aussi les lignes chez les autres.
C'est ça.
À force, enfin.
Ouais,
en tout cas,
ça les questionne aussi. Ça.
Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment boosté. Donc la dernière transition que j'ai faite, donc je quittais dans le style, on quitte un salaire. Hein, donc moi, je quittais la fonction publique. Hein, où en fait j'allais être embauchée hein, concrètement hein, c'est moi qui ai décidé de partir
drôle.
Sinon c'est pas drôle et en fait très étonnamment j'ai eu des gens alors dans ma tête en plus mon projet était pas super défini au moment où je suis partie donc on me disait mais alors qu'est-ce que voilà donc mais alors qu'est-ce que tu vas faire donc comme je me disais quand même faut quand même que je sois un peu cohérente un petit peu j'avais quand même un souci d'image de marque je me suis dit bon je vais pas trop annoncer ce que je vais faire un peu du teasing hein, je vais la jouer marketing et en fait les gens, j'ai eu quelques personnes, elles se reconnaîtront, elles me disaient mais de toute façon, quoi que tu fasses non mais vraiment, ça va je suis sûre que ça va marcher, tu vas réussir et ben en fait ça m'a fait
ça,
super
c'est
du bien, ah ouais,
ouais
c'est vraiment
ouais,
alors ça c'est des vitamines, hein, c'est du bonheur là, c'est mieux que du jus de fruits frais, hein, quoique, quand il est bio c'est pas mal et ça en fait ça booste vraiment et ça permet encore d'aller encore plus loin et je me suis dit, ok, ben en fait visiblement, j'ai des ressources que je ne perçois pas toujours. Et donc, les autres l'ont perçu, donc c'est que je suis sur la bonne voie.
Mmh. Moi, ça fait tellement du bien. Enfin, tu vois, j'ai eu un flash quand tu as dit ça de mon mari, justement, qui m'avait dit à l'époque de toute façon, tu réussis tout ce que tu entreprends.
Ouais, ouais.
Et
mmh.
En fait,
wow.
Ah, ça. Alors, bon, je ne l'ai peut-être pas cru sur le moment, mais. Le bonheur quand même, enfin l'énergie que ça t'apporte
sûr,
en tout cas d'entendre ça.
Ouais.
Mais je me souviens qu'il m'avait dit ça à l'époque où, bon, moi j'avais un petit peu eu du mal quand même à montrer mes vidéos ASMR parce que ça, c'était pas connu, personne savait trop ce que c'était. Et quand j'en ai parlé à mon mari et même à mes parents, je me suis dit mais ils vont me prendre pour une folle. Je suis en train de chuchoter dans un micro. Je suis en train de faire du tapping avec mon portable ou machin. Et en fait, justement, je leur en ai parlé quand j'étais mais ultra sûre de moi et j'avais pas besoin d'avoir l'aval des autres, quoi.
Oui, puis tu t'étais sûrement préparée inconsciemment à ce que potentiellement, au pire, c'est-à-dire à ce qu'ils rigolent ou ce qu'ils te disent.
Oui,
tu vois,
oui,
tu l'avais
ouais.
Imaginé. Donc
oui,
après, t'étais prête au final.
Mais je pense que même moi, tu vois, je savais vraiment que ce que j'étais en train de faire, ça allait apporter quelque chose. Et c'est à ce moment-là où du coup mon mari m'a dit ça et il m'a dit en gros bon moi je comprends pas parce que lui il est pas du tout réceptif à ça et il a dit je comprends pas mais bon voilà de toute façon tu réussis tout ce que tu entreprends donc si tu penses que c'est une bonne idée
vas-y,
voilà et ça fait du bien d'avoir en tout cas d'entendre ça ouais
ça c'est tout
et depuis ils écoutent.
Et alors lui toujours pas.
Ouais.
Non lui il est très tu sais son de la pluie, de la nature ou des reportages genre des documentaires, tu vas écouter ça pour s'endormir.
Oui, puis c'est ta voix donc
en
je pense
plus,
que c'est particulier.
Donc c'est pour ça ouais, j'allais ouais. Dire aussi bien même ma famille que mes amis, c'est un peu compliqué pour eux d'écouter avec ma propre voix. Mais je sais que ma tante écoute et j'ai 2-3 copines quand même qui m'écoutent. Mais en tout cas, ça leur a ouvert cette porte-là. Donc après, ils vont piocher peut-être dans d'autres contenus si jamais. Mais bon, ils ont compris avec du recul que quelques années plus tard, maintenant, on en parle un peu plus et que effectivement, ça apporte quelque chose. Et voilà.
Moi, je trouve ça génial, hein, ce côté. Moi, ils viennent tous, hein, toute ma famille, tous mes amis, ils viennent tous maintenant sur la péniche et puis ils trouvent ça chouette et ils sont contents d'être là. Je trouve ça, c'est top. Quoi.
Puis après, c'est des bons. C'est des bons outils de promotion.
C'est des bons, c'est mon équipe commerciale.
C'est,
ça. Ouais.
C'est des ambassadeurs.
Une fois qu'ils ont compris ce que tu fais, après ça va. Par contre, oui, c'est ça, c'est d'avoir le temps, leur laisser le temps aussi de d'être consciente qu'il y a un changement et donc de savoir comment en définir la personne une fois qu'elle a changé de métier, parce que il y a toujours
comprendre
le moment
aussi
de comprendre
le métier,
ouais, déjà
comprendre le domaine, parce que c'est des domaines aussi des fois qui peuvent leur être étrangers,
oui,
complètement
étrangers. Parce que je pense que ta maman ou ton papa au début, quand tu faisais tes vidéos et qu'on leur demandait mais elle fait quoi ta fille,
oui, mais sans parler d'ASMR, c'est que le métier de youtubeur est quand même assez récent, enfin d'être payé en faisant des vidéos, c'est, pour certaines personnes, c'est encore très compliqué quoi, de l'accepter.
Elle
ou
fait des vidéos.
Je sais pas. Oui, voilà.
Super, elle chuchote. Oui. Et elle est payée.
C'est ça. Mais du coup, non, maintenant, ils comprennent. Mais c'est vrai que, oui, bon, c'est comme tout. Ça a pris du temps. Ouais. Voilà.
Et pour la dernière question, est-ce que vous avez un film, un livre ou quelque chose qui peut aider à en tout cas faire évoluer. Tu parlais de l'ikigai, mais est-ce qu'il y a une lecture ou quelque chose hors parole de proche qui vous a permis d'avancer dans vos projets?
Moi, j'en ai un, mais que je cite souvent, mais bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je crois que j'avais commencé à lire quand j'étais encore à Paris, mais c'est les 4 accords Toltec, en fait. De Don Miguel Ruiz. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été un livre qui m'a beaucoup motivée, en tout cas, pour plein de choses. Donc voilà, c'est souvent... Enfin, je l'ai toujours dans mon sac, je continue à le lire.
Tu le relis régulièrement.
Oui, il y a des choses à prendre et d'autres choses à... Comment dire ? Il y a beaucoup de connotations religieuses dans le livre, donc je ne prends pas
c'est
tout.
C'est spirituel, ouais.
Ouais. Enfin, même pas spirituel, vraiment, il y a des parties religieuses, vraiment, que je ne prends pas personnellement, mais tout le reste, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué avec ce livre-là. Et même 5-6 ans après, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Donc voilà.
OK. Et toi, Myriam, une lecture particulière qui t'a marquée ?
Oh, il y en a plein qui m'ont marquée, mais peut-être le livre de Bertrand Piccard sur son tour du monde en montgolfière. On parlait de montgolfière hors micro tout à l'heure. Il en a écrit plusieurs, tous ces récits, en fait, font une analogie avec la vie et avec cette aventure qui est assez extraordinaire d'avoir fait le tour du monde en ballon, alors que c'est pas forcément un sujet qui m'intéressait, mais son livre est étonnamment plein d'images et plein d'analogies avec la vie qui m'ont beaucoup aidée et beaucoup appris.
Tu te souviens du titre ?
Alors, je crois que ça s'appelle Le Tour du Monde Je crois que ça s'appelle Le Tour du Monde, tout simplement. Enfin bon,
je vais taper Bertrand Piccard. Je le mettrai en référence sur l'épisode. De ton côté ?
Et moi, ce n'est pas un bouquin, c'est plus... moi, le début de mon changement, il s'est fait aussi avec Les Colibris. En tout cas, ça a été consécutif. Et du coup, le premier docu que j'ai regardé où je me suis dit, voilà, il faut que je change, c'était Solution locale pour un désordre global de Colin Serrault. Vraiment, ça a été un électrochoc. Et je me suis sortie de là en me disant, voilà, ben moi aussi, en fait, je veux aider, je veux participer au changement, vraiment. Et après, il y a eu Enquête de sens, il y a eu le film Demain, enfin voilà, tous ces films-là. Mais je pense que Solution locale, pour moi, ça a été un truc qui m'a... Ou derrière, j'ai fait une formation en permaculture, enfin voilà. C'était le début du changement, quoi.
Ouais. Voilà. Bah, en parlant d'Enquête de sens, il y a Sismic, le très bon podcast Sismic, qui vient d'interviewer Marc de la Ménardière. Ouais. L'interview est passionnante où justement il raconte ce qu'il raconte un peu dans le film, mais il va plus loin puisque maintenant il a le recul après la sortie du film. Et déjà Sismic est un très bon podcast, mais celui-là que j'ai écouté avant-hier est particulièrement passionnant, donc je vous le conseille.
Et en quête de sens, même si c'est sorti il y a un moment, ça vaut vraiment le coup de le regarder parce que c'est vraiment ça sur la reconversion, enfin sur la prise de conscience de le boulot que je fais, il a pas de sens et j'ai envie d'aller vers autre chose.
D'un choc où il se casse une cheville et donc ça. Il est obligé de rester chez lui pendant plusieurs semaines, donc il regarde des documentaires et là il se rend compte de ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, donc chacun sa
mise en mouvement,
son déclencheur,
son déclic.
Super. Et moi j'ai trouvé une petite citation que je trouve pas mal d'Albert Einstein qui dit « La logique vous conduira d'un point A à un point B, et l'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. » Voilà, donc il ne reste plus qu'à être imaginatif et audacieux. Et ben, pour conclure cet épisode, est-ce que vous pouvez toutes rappeler où on peut vous retrouver, vous écouter, se détendre grâce à vous?
Pour ma part, sur YouTube, sous Sandra Relaxation ASMR, et j'ai mon site internet où je parle un petit peu de tout ce que je fais sur sandra-marinelli.com.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'ASMR, mais il y a beaucoup d'autres choses. Tu as une chaîne YouTube aussi avec ton mari.
Exactement, qui est sur le bien-être personnel et de la planète aussi. Et je fais des petites créations. Et si on essayait ? Donc, si on essayait, puis pareil, notre but à la base, c'était d'aller rencontrer des thérapeutes, pareil, pour faire des interviews de médecine douce, etc. Mais bon, là, c'est un peu compliqué parce que voilà. Et sinon, on retrouve les petites créations que je fais, des cartes positives.
Des cartes positives,
ouais. Tout ça.
Mmh. Super. Myriam ?
Moi, au niveau de la conduite du changement, on me retrouve sous le nom de Échange, qui est donc la structure que je crée avec un site internet qui est en cours, échange.fr, sur LinkedIn, sur mon profil aussi, on peut me retrouver. Et puis, sur la partie plutôt yoga, donc j'ai rendez-vous en terre intérieure.
Évidemment.
site internet en terreintérieure.fr, une page Facebook, Instagram. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux un petit peu partout.
Super, merci.
La péniche Althea est située sur l'île Pio à Avignon.
Et
elle bouge pas. Elle a un site internet, une page Facebook. On peut maintenant désormais réserver son sauna en ligne. Il y a toujours la chambre d'hôte qui fonctionne et les thérapeutes qui reçoivent. Et puis plein d'autres.
Puis il y a une petite nouveauté audio quand même.
Il y a une petite nouveauté audio qui s'appelle un nouveau podcast. Que je crée avec Marie-Cécile Drécourt.
mais qui est cette personne?
Qui s'appelle Ma thérapeute et moi et qui a un podcast dont l'objectif est d'ouvrir aux médecines douces en partant des petits mots du quotidien.
C'est ça, essayer de donner des solutions pour soulager les petits mots du quotidien grâce aux médecines douces. Voilà, et on se régale à l'enregistrer ensemble. Merci beaucoup à toutes les quatre. J'espère que cet épisode aura permis à nos auditeurs de au moins déjà se poser pour réfléchir à leur chemin, ou en tout cas au chemin que vous allez prendre dans le futur. Et puis on se retrouve bientôt sur Esperluette et là on va aller prendre une tisane et au lit.
Esperluette. Esperluette.